Afin de poursuivre la série radiophonique retraçant une partie de l'histoire des Polonais de Kania-Klemine, Radio Albigès s'est rendu au musée de la mine en juillet 2023. Ce musée fut fondé par six anciens mineurs ayant travaillé au fond des puits de Cagnac. En 1989, soit 4 ans après la fermeture définitive des deux puits de Cagnac, le musée de la mine ouvre ses portes. Grâce à la volonté de six anciens mineurs pour rendre hommage au travail et aux hommes de ces mines, une galerie a été creusée à quelques mètres seulement sous terre pour permettre de s'immerger dans une veine de charbon. Ce musée est géré depuis 2007 par l'Office de conservation départementale du Tarn. Il a été fermé quelques temps pour rénovation et a réouvert ses portes en avril 2023. Depuis, il connaît une forte influence de visiteurs. Angélique, médiatrice culturelle, nous fait une visite guidée de ce musée et Stanislas Viatek nous fait part de son témoignage d'ancien mineur de fond à Cagnac.
Qui a été repris par le département du Tarn en 2007 pour assurer sa conservation.
Angélique, médiatrice culturelle qui réalise les visites guidées du musée.
Mais il faut savoir qu'il est à l'origine de 6 anciens mineurs qui ont travaillé ici aux mines de Cagnac et à la fermeture de celle-ci en 1979. Eux, leur envie et leur passion étaient de perpétuer ce patrimoine ouvrier et de le faire découvrir au public, puisque bien sûr, il n'y avait que les mineurs qui pouvaient descendre au fond. Également, la politique de charbonnage de France était de raser tous les carreaux de mines, c'est-à-dire toutes les structures en surface, quand les mines fermaient. Donc ces six anciens mineurs se sont attelés à sauvegarder certaines structures et ils ont également reconstitué une galerie de plus de 300 mètres que nous visiterons tout à l'heure.
Voilà, il se fait que pendant des années, j'ai travaillé en binôme avec un camarade qui était adjoint à la mairie de Cagnac.
Stanislas Viatek, ancien mineur d'origine polonaise, à l'origine du premier musée de la mine et qui a travaillé dans la mine de 1964 jusqu'en 1979.
Et un jour, alors qu'on mangeait tranquillement le contenu de la musette, il m'a dit, tu sais Stan, j'ai un projet. Et il m'a dit, est-ce que tu me suis? J'ai dit, raconte-moi ton projet. Et quand il me l'a dit, j'ai dit, eh bien allez, on y va. Et alors il fallait faire vite là, parce que si pour récupérer ce matériel, sinon il y avait les charognards qui se mettaient dessus là. D'ailleurs, comme Brianne, il a voulu nous mettre dehors alors qu'on récupérait du matériel. On lui a dit, tu viendras nous foutre dehors de là. Et bien sûr, il n'a pas insisté et on a pu récupérer pas mal de matériel là. Mais c'était surtout pour faire voir aux femmes ce qu'était le musée, enfin le fond de la mine. Dans quelles conditions nous travaillons pour amener 4 sous à la maison.
Alors ici, nous sommes au-dessus du puits numéro 2 de Cagnac, qui a été construit en 1891 et qui fait 235 mètres de profondeur. Un petit peu en amont, nous avons le puits numéro 1. Et là-bas au loin, qu'on ne peut pas voir d'ici, mais au niveau des panneaux photovoltaïques, nous avons le puits numéro 3 de Cagnac. Et donc parmi les structures sauvegardées, nous avons celle-ci, qui est le chevalement. Et le chevalement permettait de faire monter et descendre les cages jusqu'au fond du puits. Donc les cages, ce sont comme les ascenseurs que prenaient les mineurs et également les wagonnets pour aller travailler au fond. Donc on en a une ici à la surface et la seconde se trouve de l'autre côté, tout au fond. Est-ce que vous avez une idée de combien de mineurs pouvaient rentrer dans cette cage? Allez-y, vous pouvez lancer les paris. Alors, une dizaine par là, une dizaine aussi, une vingtaine. Monsieur, vous voyez beaucoup trop large. Mais une dizaine, ça se rapproche, parce qu'en fait, on pouvait rentrer 8 mineurs dans cette cage, donc 4 en haut sur le plancher du haut et 4 en bas, un petit peu recroquevillés sur le plancher du bas, ou bien 2 wagonnets, un ici et un là-haut. Et il faut savoir que nos mineurs descendaient à 6 mètres par seconde, et pour les wagonnets, eux, c'est pas vivant, on s'en fiche un peu, c'était 12 mètres par seconde. À titre de comparaison, nos ascenseurs à nous descendent à 60 cm par seconde, donc ça faisait quand même une belle chute, et ça marquait le tout premier jour de travail pour le mineur, quand il allait au fond. Et je vais vous passer une petite bande-son pour que vous imaginiez ce qu'entendaient eux, les mineurs, quand ils prenaient leur cage. Alors bien sûr, c'était beaucoup plus amplifié. Et au début, on va avoir le petit son de cloche qui est l'appel pour le machiniste. C'était un son qui était quand même assez métallique, mais tout comme dans notre cage, peut-être que vous l'avez remarqué, mais on entend des sons stridents à certains moments. Et en fait, c'est à chaque passage de cage au niveau d'une galerie qu'on appelle aussi recette. Donc l'appel d'air fait ce son-là, et le plus long son strident, c'est au moment où les cages vont se stopper. Donc nous voici dans la lampisterie, ou du moins une reconstitution de lampisterie, parce qu'il faut savoir qu'elle pouvait être beaucoup plus grande, elle pouvait accueillir 1000 mineurs par exemple, et comme son nom l'indique, c'est là où les mineurs venaient récupérer leurs lampes pour descendre au fond, puisqu'il n'y avait pas de lumière. Donc au début, ils utilisaient des lampes raves, c'est-à-dire deux soucoupes avec de l'huile végétale, dans laquelle ils pouvaient allumer une mèche et s'éclairer ainsi. Vous en avez une dans la salle d'exposition, si vous allez les voir tout à l'heure. Puis après, hop là, est apparu ce système de lampes qu'on appelle des lampes acétylène ou des lampes à carbure de calcium. Donc les mineurs mettaient des cailloux de carbure de calcium à l'intérieur avec de l'eau. Les deux ensemble faisaient une réaction chimique qui créait le gaz, l'acétylène. Et avec un briquet, ils pouvaient allumer une mèche. Donc ils avaient leurs lampes à bout de bras ou accrochées à leur wagonnet pour aller à leur chantier de travail qui était parfois à quelques mètres, centaines de mètres ou bien plusieurs kilomètres des cages qu'ils avaient prises. Puis après la Seconde Guerre mondiale est apparu ce système de lampes qu'on appelle des lampes chapeaux ou des lampes à batterie. Donc les mineurs venaient mettre leurs lampes ici sur leur casque dans la petite encoche que vous avez là et la batterie accrochée à la ceinture. Et alors toujours pour vous rassurer, nous on n'a pas besoin de prendre notre lampe puisque la mine est éclairée. Mais comme nous sommes nombreux, on va faire deux passages de cage. Donc je vais prendre les 10 premiers avec moi et je viendrai chercher les autres après. Allez-y. Alors si vous avez peur, c'est mieux de passer au premier passage. Alors nous allons entendre une sonnerie et c'est après la sonnerie que nous descendrons. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien ?
Oui !
Super ! Donc, un wagonnet vide pesait entre 100 et 150 kg, et quand il était plein, c'était environ 500 kg. Et au début, sur les courtes distances, c'était des enfants de 10 à 12 ans qui les acheminaient jusqu'aux cages. On les appelait les petits rouleurs, mais avec les lois Jules Ferry en 1882, qui vont être renforcées en 1892, ces enfants-là ne sont plus dans la mine, mais à l'école. Mais ils peuvent y retourner à partir de 13 ans avec un certificat d'études, où là, ils apprendront le métier de mineur et le devenir vers leurs 16 ans. Et sur les plus longues distances, c'était les chevaux qui prenaient le relais. Alors le cheval n'était pas descendu et remontait tous les jours à la surface, mais il descendait une seule fois au fond du puits et il y restait entre 12 et 15 ans. Alors si, il le voyait, mais quand il remontait à la surface. Mais j'ai vu que vous avez eu plus de réactions pour les chevaux que pour les enfants.
Mais les enfants y remontaient.
Oui, c'est une manière de voir les choses, en effet. Et le cheval, lui, il ne descendait pas par les deux planchers de la cage que vous avez vu tout à l'heure, mais il était harnaché dans le sens de la longueur en dessous des cages. Donc c'était un travail d'extrême précision pour le machiniste, et bien sûr là, il y allait très très doucement. Mais qui dit chevaux dit infrastructures qui vont avec. Donc il faut imaginer que la galerie que vous avez là pouvait être par exemple un peu plus imposante, puisque près des cages, il y avait une écurie pour qu'il soit logé. Mais qui dit chevaux dit également nourriture, et l'avoine, lui, descendait tous les jours au fond du puits pour ne pas qu'il pourrisse dans ce genre de wagonnet jaune que vous avez juste ici. Mais qui dit nourriture dit également rat qui vient avec. Alors oui, également excréments dans la mine. Mais il y avait des palefreniers pour s'occuper des chevaux, tout ça. Donc c'était pas, ça restait pas sur place non plus. Hein. Et comme je le disais, qui dit nourriture dit rats qui viennent avec. Et donc il y a eu une prolifération de rats dans la mine qui venait casser la croûte avec les mineurs. Et pour essayer de contrer cela, les mineurs y ont descendu des chats. En effet. Mais je sais pas si les chats étaient très efficaces parce que entre un rat et un chat, le chat il a plus peur du rat que l'inverse. Mais voilà, c'était une jolie ménagerie qu'il y avait au fond du puits. À savoir quand même que le rat est utile aux mineurs puisqu'ils ont l'ouïe très fine. Et donc si les mineurs voyaient les rats quitter le navire, eux aussi ils partaient parce que ça voulait dire qu'une galerie allait s'effondrer. Également pour terminer sur la ménagerie des animaux, vous avez peut-être entendu que dans certaines mines, ils descendaient des canaries pour repérer le monoxyde de carbone. Non pas pour le grisou, mais pour le monoxyde de carbone. Donc si le canari commençait à flancher ou était capoute, les mineurs savaient qu'eux-mêmes ne restaient pas là. Mais ici à Cagnac, c'était pas des canaris, mais des souris blanches en cage qu'ils utilisaient pour ça. Donc en plus des chevaux, des rats, des chats, il y avait aussi des souris au fond pour leur tenir compagnie. Et le cheval, lui, il avait 12 wagonnets comme celui-ci cliquetés derrière lui. Par contre, s'il entendait un 13e cliquetis, il démarrait pas. Lui, c'était 12 et pas un de plus, sinon il faisait la grève. Il avait intégré comme ça. Et à partir des années 1920, est apparue la locomotive que vous verrez après en passant. Celle-ci s'est généralisée en 1950, donc bien sûr à partir des années 50, les chevaux ne seront plus du tout au fond, mais ils vont cohabiter sur une certaine période. Et qui dit locomotive dit nouvelle mesure de sécurité, puisque celle-ci était électrifiée par un câble pour pouvoir fonctionner. Donc bien sûr, les mineurs ne devaient pas l'accrocher, sinon électrocution. Et pour les chevaux, quand ils ont cohabité avec la locomotive, à eux, on leur mettait des capuchons en caoutchouc sur les oreilles, pour éviter cette électrocution. Je vous invite à regarder là. Nous avons ce qu'on appelle la baraque du porion ou le caisson du porion. Et le porion, c'était le contremaître, celui qui allait vérifier l'avancée de ses chantiers, celui qui faisait le pointage de ses hommes. Il leur donnait la paye tous les 15 jours, également il donnait la punition à ceux qui ne voulaient pas travailler, mais il les aidait aussi en cas de problème technique sur leur chantier, il les laissait pas se débrouiller tout seul. Et dans sa baraque, il avait un téléphone pour communiquer avec la surface, une trousse de secours en cas de petit bobo. Ce que vous avez ici dans le coin, normalement n'est pas dans la baraque du porion, mais on vous l'a mis là pour que vous puissiez le voir. C'est un Fenzi, les ancêtres des bouteilles à oxygène à air qu'ont actuellement les pompiers. Et ce Fenzi pouvait être utilisé par des mineurs sauveteurs parce qu'ils ont une formation pour. Car plus on creuse dans une galerie, moins il y a d'oxygène, donc en cas d'insuffisance respiratoire, ils avaient déjà ça. Mais dans sa baraque, le porion avait un grisoumètre. Alors je pense que vous savez tous ce qu'est le coup de grisou, mais pour rappel et pour les plus jeunes, c'est l'explosion qui est provoquée par la rencontre de l'oxygène avec le méthane, le gaz contenu naturellement dans les pores du charbon. Et pour que ça explose, il faut que ce méthane soit à une teneur de 4 à 16%. Et donc le grisoumètre venait mesurer cette quantité-là. C'était l'un des accidents les plus redoutés par les mineurs parce que c'est une énorme explosion, donc avec peu de chances de survie si on est à côté. Mais à savoir quand même que dans le bassin, les mines étaient peu grisouteuses. Mais tout comme nos mineurs, le porion lui aussi pouvait faire plusieurs kilomètres pour aller voir ses différents chantiers, comme par exemple celui-ci. Avant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit ici au rocher ou bien au charbon qu'on verra après, tous les mineurs étaient payés à la tâche et ils avaient un quota à faire. Et ici, c'était un avancement dans la pierre de 16 à 30 cm par homme et par jour pour pouvoir être payé. Donc s'ils faisaient le quota, tant mieux. S'ils faisaient plus, ils avaient un bonus. Par contre, s'ils faisaient moins, ils avaient un malus et on leur retirait de l'argent. Une fois que ces mineurs-là avaient atteint la veine de charbon, leur travail à eux sur ce chantier-là, du moins, était terminé. Et donc c'était les piqueurs, les gueules noires qui prenaient le relais pour abattre le charbon. Et c'est ce qu'on va voir juste derrière vous, messieurs, dames.
Quand vous disiez qu'il y avait des punitions pour les mineurs, c'était quoi comme type de punition ?
Alors par exemple, c'était refuser les jours de congé qu'ils voulaient. Voilà, à titre d'exemple. Voilà, si vous demandez tout votre mois d'août, bah, le porion pouvait dire « eh ben non ». Voilà. Ici, le chantier proposé date d'avant la Seconde Guerre mondiale, parce que les mineurs venaient abattre le charbon avec un marteau-piqueur à air comprimé et également un pic. Il venait charger des wagonnets comme celui-ci, qui était ensuite remonté à la surface pour pouvoir être trié au lavoir. Mais comme toujours, nos mineurs sont payés à la tâche. Et ici, c'était un quota de 4 à 5 tonnes à faire par homme et par jour pour pouvoir être payé. Donc avant la Seconde Guerre mondiale, c'était un poste qui se faisait le matin, donc 6h, 14h. Et pour ne pas que ce soit le copain ou le voisin qui dise « Oui, c'est moi qui ai fait mon quota de charbon », bien qu'il y ait une énorme solidarité entre les mineurs, ils avaient tous plusieurs goupilles avec leur numéro de matricule inscrit dessus. Leur numéro de matricule, c'était un numéro qui les représentait à eux. Et cette goupille, ils l'inséraient au fond du wagonnet avant le chargement. Une fois que celui-ci était déchargé à la surface, on relevait cette goupille et on notait qu'il avait bien fait son quota de charbon. Et quand on abat le charbon, ça fait énormément de poussière. Certains mineurs ne se voyaient pas à quelques mètres les uns des autres. Et ils avaient tous un tuyau de ventilation permettant de faire l'aérage, c'est-à-dire la circulation de l'air dans leur galerie. Aussi, que ce soit ici ou bien au rocher tout à l'heure, ils avaient tous une pompe à eau, qu'ils appelaient une pompe polito, parce qu'il leur arrivait de tomber sur des nappes phréatiques, c'est-à-dire de grosses poches d'eau derrière le charbon ou la roche. Et donc travailler avec de l'eau jusqu'au cou, c'est pas l'idéal, donc ils avaient tous une pompe pour la retirer si nécessaire. Dans la mine, il fait très chaud, pas en dessous de 35 degrés, donc c'est pour ça qu'on les voit souvent dénudés sur les photos, ou si vous avez connu d'anciens mineurs, ils peuvent en témoigner. Et ici, une chose que faisaient nos piqueurs, et je pense que vous l'avez vu au-dessus de vous, mais ils venaient faire ce qu'on appelle le boisage. On dit que celui qui creuse, il boise. Et donc, ils venaient mettre un soutènement en bois pour venir sécuriser le toit de leur galerie et que ça ne s'effondre pas sur eux. Donc, vous voyez, messieurs, dames, que nos piqueurs devaient abattre le charbon, le charger, le faire remonter et également sécuriser. Donc, tout cela prend du temps, c'est pénible, physique et usant. Mais grâce à des luttes sociales, des grèves auxquelles même leurs femmes et leurs familles ont participé, ces mineurs ont réussi à avoir des avantages que d'autres ouvriers, par exemple en métallurgie ou bien en verrerie, n'avaient pas. C'est-à-dire qu'ils avaient 5 tonnes de charbon pour se chauffer, ils avaient le loyer payé, ils avaient les frais de santé également payés, ils devaient présenter un jeton. Pour l'époque, ils avaient un salaire beaucoup plus élevé que les autres ouvriers et donc ils avaient un pouvoir d'achat plus élevé. Et un dernier exemple qui est, ma foi, toujours d'actualité, ils avaient la retraite à 50 ans, mais avec au moins 30 ans de fonds. Et pour les mineurs de jour, ceux qui travaillaient à la surface, c'était la retraite à 55 ans.
Les maladies des mineurs les plus courantes?
Alors, la silicose et également, je me suis mangé le nom, mais la maladie due au charbon, la poussière de charbon. Après, l'alcool n'était pas autorisé au fond, mais par exemple, certains mineurs ne sont pas décédés des conditions au fond, mais ils sont décédés de la cirrhose parce que voilà, ils descendaient avec leur alcool aussi. Mais bon, ça c'est à part autre que dans la mine.
L'alcoolisme, c'est un risque socio-professionnel.
Oui, bien sûr, oui. Mais bon, c'est pas lié aux maladies dues aux conditions de travail réelles quand eux, ils travaillaient, quoi.
Est-ce qu'on a des chiffres sur l'espérance de vie des mineurs par rapport aux autres ouvriers?
Alors, pour ma part, j'ai pas les chiffres exacts, mais en fait, tout dépendait de la condition propre aux mineurs. Certains mineurs sont décédés à la retraite ou même avant, et d'autres mineurs à plus de 90 ans étaient en pleine forme. Alors bien sûr, les conditions au fond n'aidaient absolument pas, mais c'était vraiment propre à chacun. Après, dans le bassin, il y avait à peu près 4000 mineurs, et sur ces 4000 mineurs, il y avait une moyenne d'accidents mortels de 3 par an. Et c'était pas dû, par exemple, aux maladies, c'était vraiment bête et méchant. On tombe dans la veuse à tambour ou ce genre de choses, quoi. Mais on peut se dire que sur le total de mineurs, c'était relativement peu. Ça fait toujours 3 de trop, ça c'est sûr. Mais voilà, sur la totalité...
On m'a parlé d'une sacrée solidarité au fond de la mine. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces propos? Est-ce que vous approuvez ou justement...
Ah oui, j'approuve qu'il y avait une grande solidarité. Parce que quand quelqu'un s'était fait tuer, bien sûr, par un éboulement, on ne remontait pas tant qu'on n'avait pas sorti. Hein.
Ensemble dans la même mine, justement, dans la même veine.
Dans la même galère.
Dans la même galère, ouais, parfois.
Non, c'était peut-être dur, mais enfin... c'était vivable, on était bien contents de travailler là-dedans. Hein. parce qu'on avait une paye certaine qui n'était pas si mauvaise que ça. Et on avait aussi beaucoup de, comment on dit, beaucoup de d'avantages, c'est-à-dire le charbon, le logement gratuit, la médecine, les soins, les médicaments. C'était un gros avantage, ça, vous savez. D'autant plus que notre sécurité sociale minière, elle est un peu spéciale. Mm. Et elle date depuis Henri IV.
D'accord. Vous pouvez m'en parler, justement, un peu ?
Oui, bien, on a les toubis gratuits, les médicaments gratuits. Ou bien, disons qu'il suffit de prendre rendez-vous chez le toubi et puis on y a accès. Hein. Mm. D'autant plus qu'à Cagnac, on a combien ? 3 toubis, non ? 4 toubis.
Oui.
Donc, il y a des villages, des villes qui se plaignent qu'ils n'ont pas de toubis, alors que nous, on en a 4 pour une petite commune comme Cagnac.
Est-ce que vous avez une idée de pourquoi nous avons des bacs suspendus au-dessus de nos têtes ?
Des pare-feu.
En effet, exactement. Alors, vous aviez raison, c'est pas pour les fuites d'eau, mais dans ces bacs, il y avait de l'eau. Et madame, également, vous avez raison, c'est pour lutter contre le feu. Mais ici, ce que vous avez, c'est un système de sécurité qui s'appelle l'arrêt-barrage. Et celui-ci ne venait pas prévenir, mais essayait de contrer l'un des accidents les plus mortels dans la mine, outre que le coup de grisou, qui est le coup de poussière. Et alors, le coup de poussière, c'est une énorme explosion, donc un souffle surpuissant suivi d'une flamme à 1/1 seconde. Et cette flamme allait enflammer toutes les particules de charbon contenues dans la galerie. Donc si la galerie faisait 50 km, la flamme faisait également 50 km. Et en général, ce coup de poussière, il survenait soit à cause d'un coup de grisou ou bien à cause d'un tir de mine mal placé. Et alors, ces bacs étaient en suspension avec de l'eau parce qu'au moment du souffle, ça vient les faire valdinguer et ainsi l'eau retombe sur la particule de charbon en la plaquant au sol ou sur les parois et comme ça, ça stoppait l'avancée de la flamme. Alors bien sûr, tout ce qu'il y avait avant était dévasté, mais à partir de là, ça pouvait s'arrêter. C'est un petit peu, du coup, une porte coupe-feu. Et ici, vous en avez une toute petite portion parce que ça, c'est pas suffisant contre le coup de poussière. Mais à minima, c'est sur 50 mètres qu'il y avait ces bacs d'eau. Et avant ça, c'était des bacs en bois remplis de cendres non inflammables, mais qui avaient la même fonction, plaquer la poussière de charbon. Alors maintenant, on va aller à notre front de taille et vous verrez sur votre gauche à vous un petit coin repas où les mineurs cassaient la croûte environ 25 minutes. Ils avaient des musettes en métal, en zinc, bien sûr, à cause des rats. Et si jamais vous voyez la bouteille de vin, comme j'en ai parlé tout à l'heure, l'alcool au fond n'était absolument pas autorisé. Mais à l'époque, le vin, c'est un petit peu comme de l'eau. Et puis il était coupé avec de l'eau. Et puis il était faible en degrés aussi.
Vous voulez du palais de
Donc nous voici à notre plus gros chantier, le front de taille. Et donc c'est une immense veine de charbon qui pouvait faire quelques mètres, voire des centaines de mètres. Et jusqu'aux années 1940, les piqueurs étaient par deux tous les 5 mètres pour venir abattre la veine dans ce sens. Mais pour venir abattre cette veine de charbon, les mineurs venaient faire en bas ce qu'on appelle la sous-cave, c'est-à-dire une saignée qui permettait de fragiliser la veine et donc de l'abattre plus facilement. Dans les chantiers les plus chanceux est apparue en 1919 cette machine. C'est une haveuse à chaîne, une sorte de tronçonneuse qui était tractée par un treuil. Et celle-ci permettait de faire la sous-cave, donc la saignée du bas. Donc les mineurs qui pouvaient l'avoir sur leur chantier avaient cette tâche en moins. Mais bien sûr, c'était que les plus chanceux, c'est-à-dire les mines les plus riches. Et après 1940 est apparu ceci. Ce sont des convoyeurs blindés qu'on appelle Panzer. Ce sont comme des tapis roulants métalliques. Et au lieu de venir charger des wagonnets, le charbon abattu était directement là-dessus. Mais pour que ça fonctionne, il fallait que le Panzer soit constamment plaqué contre la veine de charbon. Et pour cela, les mineurs prenaient appui sur leur soutènement et poussaient le Panzer avec leurs pieds. À partir de là, ils ne vont plus faire du boisage, mais ils vont utiliser des étançons métalliques pour sécuriser le toit de leur galerie, que vous verrez après en avançant. Et derrière eux, il n'y aura plus du remblayage, mais ce qu'on appelle le foudroyage, c'est-à-dire que la pierre qui était au-dessus était éclatée pour que ça s'éboule et se remblaye automatiquement. Mais en faisant cette technique, ça a créé des problèmes d'affaissement à la surface, et donc par endroits, il y a eu des maisons effondrées, fissurées ou bien en tour de Pise. Également, parce que c'est pas terminé pour nos mineurs, quand il y avait le foudroyage, ils devaient récupérer les étançons métalliques parce qu'il y avait une caution dessus. Et s'ils ne le faisaient pas, eh bien c'était tant pis pour eux, mais c'était une somme déduite de leur paye. Et après la Seconde Guerre mondiale, donc après 1945, 1950, 1960, il y a eu ce qu'on appelle la mécanisation totale. Et donc ce sont de grosses machines qui vont venir abattre la veine de charbon parce qu'il fallait beaucoup plus de rendement pour reconstruire le pays après la guerre. Et c'est ce qu'on va aller voir tout au bout avec la laveuse à tambour. Alors pour que ce soit un petit peu plus clair et visuel pour vous, je vais vous passer une courte vidéo du travail de la laveuse contre la veine de charbon. Et une fois terminé, vous aurez le soutirage juste derrière. Étaient descendues, démontées au fond du puits et elles étaient remontées une fois sur place. Donc tout cela prenait du temps en plus de faire la maintenance. Et il y avait également la question de la pollution avec les camions à fuel qui respiraient à longueur de journée en plus de la poussière de charbon.
Il y a beaucoup de machines. Quelles sont devenues ces machines à la fermeture de la mine?
Alors certaines ont été réutilisées par nos 6 anciens mineurs, récupérées. Ensuite, il y a eu la mine à ciel ouvert, la découverte, où là il y a encore le parc des Titans avec les grosses machines. Mais sinon ici, à part être refondu et réutilisé en métallurgie, mais sinon...
Ça n'a pas été revendu à d'autres sociétés minières dans d'autres pays?
Ça, je pourrais... Pour ces questions-là, je n'ai pas du tout les données.
Peut-être pas celle-ci en particulier, mais...
J'étais électromécanicien. Ça consistait à dépanner, à... faire la maintenance, le montage des machines, les brancher et les dépanner.
Ces machines-là, justement, à la fermeture de la mine de Cagnac, du puits numéro 3, est-ce qu'elles ont été remontées? Ça a été une des questions que je me suis posée, justement, lors de la visite du musée. Est-ce que toutes les machines qui étaient, du coup, au fond de la mine, ont été remontées à la fermeture, ou est-ce qu'elles sont restées, elles aussi, du coup, dans la mine?
Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de machines qui sont restées, mais ils en ont remonté pas mal. D'ailleurs, elles étaient sur le plateau de la Tronquée à l'époque, et quand on a commencé le musée, on a réussi à les avoir pour les monter au musée, parce qu'on les a acheminées en pièces détachées, évidemment, et on les a montées dans le musée. Et ils nous ont donné une paye comme camion. Et on a, comme on y travaillait sur ces camions pendant des années, on a réussi à le dépanner. Et comme au fond, il n'y avait pas trop d'oxygène, ils avaient du mal à fonctionner. Donc, une fois au four, ils respiraient la santé insolente.
Un peu comme les êtres humains, j'ai envie de vous dire.
Bien sûr, parce que nous, on était dans cette espèce de fumée-là. Et on se plaint actuellement qu'il y a de la pollution, mais s'ils avaient vu la pollution qu'on avait au fond, on ne se voyait pas de vous à moi. Hein. On voyait juste le halo de la lumière frontale qui on savait que la personne était là.
Alors je vous invite à aller là-bas pour aller au petit coup de grillou. Est-ce que tout le monde est prêt?
Oui.
Allez, on est parti. Donc voilà, ça vous montre l'impact que pouvait avoir ce genre d'accident, autant au niveau des galeries que de la production ou du matériel, mais aussi les pertes humaines qui peuvent y être associées. Ici, l'accident du coup de grisou le plus connu est celui au puits de la Tronquée à Blaye-les-Mines, où un coup de grisou a tué 12 mineurs en 1965. Mais bien sûr, comme c'est suivi d'une flamme, C'est également un coup de poussière. Et par contre, le coup de poussière le plus meurtrier est celui dans la mine de Courrière, dans le nord de la France, où un coup de poussière dévasta par arborescence des centaines de kilomètres de galeries et tua 1099 mineurs en 1906.
On vous a demandé vos conseils d'anciens mineurs pour la rénovation du musée.
Véronique m'a demandé si je pouvais venir voir la... Si c'est fait dans les règles de l'art, quoi. Alors j'ai été, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait conformes, mais personne ça ne le sait, il n'y a que ceux qui ont travaillé qui le savent. Et bien sûr, autrement, ça a été conforme, disons.
Vous étiez plutôt, vous avez validé les travaux miniers.
Voilà, j'étais appelé pour... Pour ceci, oui.
Depuis que le musée a été rénové, qu'il a réouvert ses portes entre avril et juin de manière gratuite, ils ont battu des records de fréquentation du musée. L'engouement des visiteurs, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui ?
Oh, ça fait plaisir, là. Mon camarade qui est décédé, il serait content lui aussi.
Sur les six, vous êtes le dernier, je crois, oui. Effectivement. Et vous avez du coup cette mission de...
Cette nostalgie.
Il sera fier de vous, ça c'est certain. Lors de l'inauguration, suite à la rénovation du musée de la mine de Cagnac, vous étiez l'invité d'honneur, justement. Vous avez pu réaliser un discours, faire une visite, comment ça s'est passé ?
Non, je n'ai pas fait de discours parce que je n'aurais pas pu. Mais ce que m'a fait un grand honneur, M. Ramon, c'est de couper le ruban comme dans toutes les inaugurations, on coupe un ruban. M. Ramon m'a fait un grand honneur de me faire couper ce ruban.
Comment vous le voyez évoluer, ce musée de la mine ? Si vous vous projetez dans 10 ans ou dans 20 ans, comment vous l'imaginez ?
Eh bien, nous, on avait fait suivant les moyens du bord, on n'avait pas de béton, on n'avait pas... Et le conseil départemental, il a bien fait de le prendre en main parce que nous, il n'aurait pas tenu bien longtemps, alors que maintenant, je pense qu'il est parti pour de longs mois et de longues années.
Justement, est-ce que vous avez eu des aides quand vous avez créé le musée de la mine ?
Non, aucune. C'était tout du bénévolat et avec les moyens du bord. Parce qu'on allait galoper du matériel jusqu'aux mines de Cruyéjoul, là-bas, jusqu'aux mines de Bertholène, dans l'Aveyron. Et voilà, on récupérait du matériel qu'on voulait bien nous donner, parce qu'on ne pouvait pas le payer, bien sûr. Mais aussi, il faut rendre hommage à M. Mazel, qui nous prêtait le camion pour aller chercher du matériel. Ça, sans quoi on n'aurait rien pu. Il nous donnait aussi, il nous filait le gasoil pour alimenter, pour faire fonctionner cette camionnette.
Du coup, vous avez eu, avant que ça soit repris par le département, qu'il y ait eu les rénovations et qu'il y ait eu un budget pour justement, parce que c'est aussi un budget d'entretenir un musée, vous avez eu beaucoup de fréquentation justement sur la période de la création avant la rénovation.
Oui, mais il y avait de la fréquentation, mais peut-être pas tant.
Est-ce que vous avez eu beaucoup de fréquentation de mineurs justement à ce musée ? J'imagine que oui.
Ils venaient surtout par curiosité, je pense, pour voir si ça ressemblait à quelque chose.
Et alors, ils n'étaient pas déçus, j'imagine.
Non, ils n'étaient pas déçus.
Alors, notre visite est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention. On va remonter par une cage qui est beaucoup plus tranquille, vous allez voir.
Je remercie Angélique pour sa visite guidée qui nous a éclairés au fond de la mine. Et je remercie Stanislas Viatek pour son ô combien précieux témoignage d'ancien mineur de fond. De plus, l'entrée au musée de la mine sera de nouveau gratuite à partir du 16 septembre de 10h à 18h et ce, jusqu'à la fin de l'année 2023. Le prochain épisode, afin de continuer la série radiophonique concernant l'histoire des Polonais de Cagnac et les mines, sera consacré à Édouard Romanowski, qui revient sur ses souvenirs d'anciens mineurs de fond à Cagnac et à Carmaux.